sujet de discussion.
Aujourd'hui les temps ont changé, car même l'eau va manquer, même l'eau va manquer.
Il faut nous rassembler, il faut s'entraider, chacun doit changer.
Nous recevons aujourd'hui Madeleine Nguega, elle est journaliste d'investigation spécialisée dans l'environnement et les droits de l'homme. Elle est aussi cofondatrice de Open Data pour Elle. Bonjour Madeleine.
Bonjour et merci pour cette opportunité.
Alors, nous sommes également avec Idiatou Camara, responsable de médias. Vous êtes à la tête de Radio Environnement en Guinée, c'est cela? Bonjour.
Bonjour Ghislaine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Idiatou Camara, administrateur général de Radio Environnement en République de Guinée.
Et voilà, nous avons un homme pour marcher justement dans la logique du genre. Anderson Diedry, journaliste environnemental. Bonjour Anderson.
Bonjour Ghislaine.
Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir. Ensemble, on parlera des défis environnementaux actuels et le rôle des médias dans ce contexte. Mais avant, nous allons échanger un peu sur ce projet Terra Africa. Quel est l'objectif du projet Terra Africa? Anderson Diedry.
Oui, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler du projet Terra Africa. Le projet Terra Africa, c'est un projet financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et c'est mis en œuvre par l'Agence française de développement média CEFI. Ce projet va se dérouler dans 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la République de Guinée. L'objectif, c'est de promouvoir le journalisme environnemental à travers des formations, donc des renforcements des capacités principalement. Mais aussi renforcer, donc l'idée c'est de renforcer le rôle des médias dans la couverture des sujets environnementaux et climatiques. D'ailleurs, c'était le thème central du séminaire de lancement. L'idée c'était de voir quelle place les médias occupent dans la lutte contre les changements climatiques. Donc l'idée c'était de discuter, voir comment cela peut se faire, quels sont aussi les défis, quelles sont les collaborations qui peuvent se mettre en place entre les scientifiques et les chercheurs, entre les journalistes et la société civile. Aussi voir quel modèle économique est convenable, par exemple, aux médias qui couvrent les questions environnementales, parce qu'on sait aussi qu'il y a des défis dans ce sens. Les médias couvrent beaucoup l'actualité politique, parce que aussi tout dépend aussi de ceux qui financent les médias. Les sujets environnementaux sont là, c'est un défi aussi, c'est le plus grand défi certainement de la planète aujourd'hui. Vous voyez la mobilisation générale qui se déroule souvent, on le voit, les manifestations comme les COP, qui mobilisent des milliers de participants. Tout cela démontre l'intérêt des sujets environnementaux. Et donc, alors que la couverture souvent reste marginale. Et donc, l'idée du projet, c'est de pouvoir renforcer ce rôle, l'implication des médias dans la couverture, dans le traitement de l'information environnementale. Et c'est pour ça que ce séminaire de lancement s'est déroulé. Et par la suite, il y aura plusieurs activités, le renforcement de la capacité, le renforcement de la collaboration avec les scientifiques, pour pouvoir aussi mieux décortiquer ces questions qui sont souvent complexes. Comment rendre cela accessible au grand public?
Voilà, un séminaire qui permet aux hommes des médias, aux femmes des médias d'être engagés justement dans la lutte contre le changement climatique et autant de défis justement qui ont été mis en lumière. On fera véritablement un focus sur ces grandes questions-là. Mais la question du rôle des médias ne peut pas se poser sans qu'on ne connaisse le contexte, bien évidemment. Déjà en Afrique, Madeleine, vous qui travaillez sur des enquêtes, des investigations sur le continent africain, qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne les défis environnementaux sur le continent africain?
D'accord. Si on doit parler des défis environnementaux sur le continent africain, je dirais que les défis sont énorme, parce qu'on a des défis qui sont propres au continent africain quand on parle de questions environnementales. D'abord, les questions environnementales ou les crimes environnementaux sont des questions transversales, sont des questions mondiales. Et quand on arrive sur le continent africain, on a des défis majeurs comme la question de la déforestation. On a plusieurs pays en Afrique qui étaient avant des pays où il y avait assez de forêts, mais aujourd'hui, on assiste à une destruction de ces forêts, à une dégradation même de ces forêts-là. Ça, c'est un des défis. Comment gérer de façon durable les forêts dans les zones où on a des forêts en Afrique. Il y a également le défi de les industries extractives. L'Afrique est toujours présentée comme un continent où il y a assez de ressources minières, assez de ressources du sous-sol. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe et ce que les rapports des experts disent, c'est que ces ressources minières, ce pétrole, cet or, sont exploitées de façon abusive et parfois, et le plus souvent, au détriment des droits des communautés qui vivent dans ces zones-là. Donc, on a aujourd'hui l'exploitation minière qui est un gros défi pour les pays africains, comment gérer leurs ressources naturelles de façon durable, de façon écologique, tout en respectant et l'environnement et les populations qui sont là. On a également des défis liés à l'accaparement des terres. Le continent africain est vaste, mais ce qui est observé ces dernières années, d'après les rapports des chercheurs sur la question, c'est qu'on a de plus en plus de grandes entreprises, de grandes multinationales qui viennent s'installer sur le continent pour mener leurs activités. Et qui dit agriculture dit avoir besoin des grandes parcelles de terre pour faire leurs activités. Et quand ils ont besoin de ces grandes parcelles de terre, le plus souvent, c'est des terres qui étaient jadis occupées par des communautés. C'est des terres où vivaient des espèces animales qui sont parfois menacées de disparition, dont les communautés sont interdépendantes pour leur survie. Donc, il y a cette question-là de l'accaparement des terres, parce qu'aujourd'hui, les communautés sont privées de leurs terres. Elles n'ont plus d'endroit où s'installer. Elles n'ont pas de titre foncier, parce que la plupart des États, c'est le domaine foncier, parfois n'est pas assez structuré, ce qui fait que les communautés peuvent vivre là des millénaires. Et du jour au lendemain, elles sont déguerpies parce qu'il y a une entreprise qui va venir s'installer. Là, ça crée un problème sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan humain. Également, d'autres aspects, c'est les questions de pollution. On a parfois la pollution de l'air. On a également la question des déchets qui, dans plusieurs villes, sont là. On a aussi une question qui est assez urgente pour plusieurs pays, l'érosion côtière. Plusieurs pays ont des îles, des îlots, des zones côtières qui aujourd'hui sont en train de disparaître parce que la ceinture côtière qui était là jadis, notamment le bois de mangrove, est en train d'être décimée et les communautés se retrouvent inondées, se retrouvent dans l'eau, des communautés, des villages disparaissent totalement à cause des raisons côtières. Donc c'est quelques-uns des défis ou des problèmes qui sont de plus en plus présents sur le continent et sur lesquels les journalistes qui travaillent sur les questions environnementales devraient un peu plus mettre l'accent.
Et il y a des méthodologies justement pour aborder ces questions-là, on y reviendra. Alors en Guinée, quel est le contexte en ce qui concerne, on va dire, la protection de l'environnement, l'environnement de façon générale?
Encore merci Ghislaine pour cette opportunité. En Guinée, nous avons pratiquement les mêmes réalités qu'en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Vous avez un problème d'érosion côtière, notamment, et puis il y a l'impact des infrastructures, notamment minières, parce que la Guinée a beaucoup de ressources naturelles, notamment minières, a une quinzaine de sociétés minières. Donc toutes ces industries construisent des infrastructures sur le littoral. Il y a des grands hôtels aussi qui poussent un peu partout, même des particuliers qui construisent sur le littoral. Et tout cela a un impact parce que Conakry, si vous avez survolé, même si vous n'avez pas atterri, c'est une presqu'île. Donc on est au milieu de la mer, on est entouré, et avec tout ce qui se passe, le fait de repousser au quotidien la mer, ça aboutit à des conséquences. Il y a des îles qui sont en train aujourd'hui vraiment d'en pâtir. Quand on prend la préfecture de Forikaria, une centaine de kilomètres, vous avez des îles là-bas, Kabak notamment, où les populations ont perdu beaucoup d'hectares, où sont obligées de se déplacer maintenant. Les déplacés climatiques, ce n'est plus dans les théories, c'est une réalité en Guinée. Au-delà, vous avez aussi le patrimoine forestier qui est assez dense, notamment une région même qui s'appelle la région forestière qui est proche d'ici. Donc il y a la forêt de Ziama qui est en région forestière, qui est un patrimoine mondial aujourd'hui classé par l'UNESCO. Mais aujourd'hui, les actions anthropiques, la déforestation, la coupe abusive, la carbonisation sont en train vraiment d'empiéter sur toutes ces ressources. Vous avez aussi la question de l'eau. Moi, j'aime bien le dire un peu pour dédramatiser ou peut-être pour un peu choquer, pour dire que la Guinée est le château de l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de fleuves internationaux qui prennent leur source. Vous avez le fleuve Sénégal qui couvre 4 pays, qui prend sa source dans ma région à Mamou, le fleuve Gambie, le fleuve Niger, qui à lui seul arrose une dizaine de pays avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Mais vous avez de l'eau, j'aime un peu rigoler là-dessus pour choquer, pour dire qu'il y a de l'eau partout sauf dans les robinets. À Conakry, la capitale, vous avez encore la pénurie d'eau. C'est des personnes qui sont fortunées, qui construisent des forages, qui alimentent, qui donnent de l'eau aux voisins. Mais les sismologues disent que tout ça, ça a un impact impact négatif après sur le sol et sur la nappe phréatique. Vous avez également d'autres problèmes, la biodiversité. Nous avons une faune assez riche aujourd'hui qui est menacée. Vous retrouvez encore des éléphants, vous retrouvez encore des lions, des antilopes, mais qui sont des espèces aujourd'hui menacées. Il y a des éléphants qui sont sortis même de la forêt, qu'on a retrouvés récemment parce qu'ils n'avaient pas de quoi se nourrir. Donc bref, toutes ces questions doivent nous interpeller, nous journalistes, et c'est sur ça que nous sommes appelés à jouer notre rôle d'interpellateur, de conscientiseur, si on peut me passer l'expression, et de journaliste citoyen, pas que de dénoncer, mais de proposer aussi des solutions à travers l'information, la sensibilisation et l'éducation pour que les choses puissent changer pour nous, mais surtout pour les générations qui viennent après.
Alors on y reviendra concrètement, comment cela doit se faire, comment est-ce que vous appréhendez ces différentes questions. On en saura un peu plus tout à l'heure, mais on verra le cas de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne ce contexte-là, déjà ce qui nous frappe à l'œil, c'est la question de la déforestation, le couvert forestier ivoirien qui se réduit, et c'est très alarmant.
Oui, effectivement, en Côte d'Ivoire.
Anderson Diedry.
Oui, effectivement, en Côte d'Ivoire, la déforestation est l'une des préoccupations actuellement en matière d'environnement, de climat. Si vous voyez les statistiques, on est passé de 1900 à 16 millions d'hectares de forêt à 2,97 millions d'hectares de forêt en 2021. Et ça, ce sont les chiffres de l'inventaire faunique et floristique national. Donc, c'est très alarmant. Donc, le pays a perdu pratiquement plus de 90% de sa couverture forestière. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la politique nationale de préservation et de réhabilitation, d'extension des forêts qui a été adoptée en 2018 pour pouvoir faire en sorte que d'ici 2030, on puisse reconstituer le couvert forestier pour arriver à un niveau de 20% du territoire national. Mais c'est vraiment un grand défi parce que on se rend compte qu'au fil des ans, la déforestation continue. Mais il faut voir aussi les facteurs qui expliquent cela. C'est principalement l'agriculture extensive, l'urbanisation, l'exploitation minière, l'exploitation aussi forestière, un ensemble de facteurs. Et donc, mais il faut dire que l'agriculture est l'un des facteurs principaux qui explique cette déforestation aggravée. Et donc, ça va impacter la biodiversité, par exemple les forêts classées ou bien les parcs nationaux qui sont infiltrés, utilisés à des fins pour l'agriculture, mais aussi le braconnage d'espèces. Donc tout ça, ça va menacer la biodiversité, ça va aussi mettre en péril tout ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire que ces forêts qui jouent un rôle de séquestration du carbone, de création de microclimat aussi pour les populations, donc il va favoriser la pluviométrie, donc favoriser également la production agricole, ça met tout cela également en péril. Ça met aussi en danger certaines espèces, par exemple, donc qui sont aussi menacées puisque les habitats sont fragmentés, sont détruits également. Donc c'est un cycle vraiment infernal dans lequel la Côte d'Ivoire est engagée, et on espère que les politiques qui sont initiées vont permettre de relever ces défis. On peut aussi parler de l'érosion côtière. On voit même Abidjan également, l'érosion côtière frappe par exemple Port-Boué, Bassam également, mais aussi Grand Lahou par exemple, ou selon les lieux, notamment Abidjan, Grand Lahou, on peut se retrouver à une avancée de la mer par exemple de 1 à 3 mètres. Donc finalement il y a des villages qui vont totalement disparaître. On le voit même à Bassam, c'est très visible, à Grand Lahou aussi. Mais c'est aussi, ça impacte les moyens de subsistance des populations, parce que quand vous allez à Grand Lahou, c'est des pêcheurs, c'est un peuple de pêcheurs. Donc tout ça aussi va faire en sorte qu'ils n'ont plus de moyens pour pouvoir vivre. Et non seulement leur village disparaît, mais également ils n'ont plus de moyens pour vivre. Et donc ça va renforcer leur vulnérabilité. S'il n'y a plus de moyens de production ou bien de subsistance, c'est aussi la pauvreté, parce que c'est les sources de revenus pour les populations. Et donc aussi ça va créer la baisse de la productivité, parce qu'on est aussi touché par la sécheresse à cause de la variabilité des saisons qu'on ne maîtrise plus finalement par rapport à la production. Ça peut aussi créer l'insécurité alimentaire pour l'ensemble du pays, parce que il y a des zones de production, notamment l'Est, le Sud, l'Ouest par exemple, qui sont des zones de forte production agricole, qui vont nourrir, en tout cas qui vont approvisionner les centres urbains par exemple. Si également il y a une baisse de la production, ça va aussi impacter par exemple l'approvisionnement de ces centres urbains en nourriture, de produits des denrées alimentaires, tout ça. Aussi, ça peut s'expliquer avec tous ces phénomènes qu'on voit aujourd'hui. On parle d'inflation, de cherté de la vie, mais c'est un ensemble. Les gens ne le perçoivent pas, mais c'est parce que quelque part, on a touché des facteurs environnementaux, ce qu'on appelle les écosystèmes, qui sont interconnectés. Et quand vous détruisez un maillon de la chaîne, ça agit sur l'ensemble de la chaîne. Et souvent, on peut être à Abidjan, on se plaint qu'il n'y a pas soit de bananes, d'igname, ou bien c'est pas un produit sur le marché, mais c'est parce que quelque part, on a agi. On a détruit un maillon de la chaîne qui fait que souvent la production qui est là n'est pas en quantité suffisante. Bien entendu, ça va créer l'offre, la loi de l'offre et de la demande, ça peut être plus cher. Donc, il y a un ensemble de choses et tout ça aussi, on peut le ramener à l'environnement et aussi au changement climatique, donc qui est dû à notre action, l'action de l'homme qui va créer cela. Donc, c'est bon qu'aujourd'hui, en tant que médias, on puisse expliquer ces phénomènes aux populations, leur dire que leur comportement quotidien, leur action quotidienne va aussi impacter le climat et à la fin, ça va retomber sur nous tous. Mais aussi les décideurs, parce qu'il faut prendre les bonnes mesures pour des politiques ambitieuses. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'on a des politiques, par exemple, de reboisement, de reconstitution du couvert forestier, qu'on a des contributions déterminées au niveau national qui vont permettre de réduire nos émissions. Mais il faut des actes concrets, il faut agir et il faut surtout impliquer l'ensemble des parties prenantes dans la réflexion, mais peut-être même aussi les médias, mais aussi les communautés locales qui ont des choses à dire, à proposer, pour voir comment on s'adapte aux effets du changement climatique. Donc, c'est un ensemble de choses à mener et le rôle des médias dans la sensibilisation, comme Idiatou l'a dit, dans l'interpellation est aussi crucial et est aussi très important.
Alors, on voit un tableau sombre, hein, qui est très alarmant, on dira, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. Mais il y a quand même aussi des actions qui nous donnent de l'espoir, qui sont menées. Déjà en Guinée, qu'est-ce qu'il y a eu comme action, peut-être à partir de certains rapports ou certains plans stratégiques de protection de l'environnement qui sont déjà entamés et qui donnent de l'espoir?
En Guinée, il y a beaucoup d'accords et de conventions auxquels la Guinée est partie prenante. Quand nous prenons les conventions de Rio de 1992 sur le sommet de la Terre, la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la convention sur la biodiversité, sur la sécheresse, vous avez aussi la convention de Ramsar sur les zones humides. Donc il y a beaucoup d'accords et de conventions dans ce sens qui sont signés et ratifiés par la Guinée selon la forme de la convention ou de l'accord. Au niveau national également, vous avez des documents, notamment de politique nationale sur le climat. Vous avez la CDN qui a été révisée récemment et qui a été présentée à la COP sur le climat.
La CDN, c'est?
C'est le document de contribution déterminé au niveau national, c'est-à-dire ce que les pays apportent en termes de lutte contre le changement climatique, soit par l'adaptation, soit par l'atténuation. Ce qui donne espoir également, c'est dans le cadre justement de cette atténuation, vous avez des barrages hydroélectriques. Comme je le disais, la Guinée a beaucoup de ressources hydriques. La construction des barrages hydroélectriques, qui sont des énergies qu'on considère propres, non polluantes. Également, vous avez des campagnes de reboisement qui se font chaque année, mais le suivi pose problème, parce qu'il ne suffit pas de planter, mais il faut veiller à ce que les plantes survivent, en tout cas pour une grande partie. Vous avez également les médias guinéens. Radio Environnement est la première initiative, une radio web sur l'environnement et le développement durable. Mais il y a d'autres médias qui émergent aujourd'hui. Vous avez Santé Environnement TV, Planète Environnement Guinée. En tout cas, les médias commencent à comprendre l'importance, la nécessité, le devoir même de s'impliquer dans la préservation de l'environnement. Ça, c'est quelque chose à saluer. Mais on n'en fait pas suffisamment. La plupart des autres médias sont généralistes. Les médias spécialisés sont assez peu nombreux. Et donc, c'est quand il y a des catastrophes, des célébrations, ou en tout cas, il y a une inondation quelque part où les médias, tu vois, c'est à la une, il faut le dire. Mais l'autre aspect qui rassure aussi, c'est que quand vous allez vers les communautés, c'est vrai, la plupart, même s'ils ne sont pas allés à l'école, ils ne connaissent pas le nom changement climatique, mais ils savent qu'il y a 10, 20, 30 ans en arrière, il pleut de plus en plus, moins maintenant, ce n'était pas la même chose. Ils ressentent la forte chaleur, il y a la perturbation de la pluviométrie que je disais. Les populations commencent à prendre conscience, mais encore, c'est lent. C'est très lent et je pense que c'est à nous médias vraiment d'aller dans ce sens-là. Comme je le disais, il y a des actions qui se mènent au niveau étatique, au niveau institutionnel, des médias. En tout cas, ce n'est pas très suffisant dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la protection de l'environnement, et nous devons aller vraiment dans ce sens. Les médias, il y a aussi des réseaux qui se créent, notamment il y a le réseau des journalistes pour le littoral, il y a une organisation de femmes aussi, le réseau des femmes pour l'environnement. Donc il y a des organisations, les médias aussi commencent à comprendre, se spécialisent, mais c'est encore pas très suffisant. Lorsque nous prenons les institutions, nous avons très peu de financement parce que les financements sont orientés vers les médias généralistes qui parlent de politique, de sport, de culture ou vraiment de diffamation entre politiciens. C'est un peu le cas dans plusieurs pays. Mais je pense que les efforts doivent se concentrer dans ce sens-là. Les partenaires, les institutions doivent accompagner les médias thématiques parce qu'on ne peut pas accepter aussi n'importe quel argent qui vient de n'importe où. Moi, l'expérience avec Radio Environnement, les deux premières années, j'avais fait tellement de demandes vers les sociétés minières, parce qu'il y a une quinzaine quand même. Hein. J'ai fait beaucoup de demandes et tout. Après, je n'ai pas eu de retour. J'ai un ami qui m'a dit, mais Idiatou, est-ce que tu as réfléchi pour savoir pourquoi les sociétés minières ne veulent pas t'accompagner? Il dit, mais parce que vous ne parlez pas de la même chose. Elles détruisent. Toi, tu parles de protection. Donc peut-être c'est quand ils vont faire des campagnes de reboisement et tout, pas un partenaire vraiment sur le tout, mais peut-être sur ce secteur, vous pouvez parler de la même chose. Parce que là, vous êtes comme deux lignes parallèles et vous risquez de ne jamais vous rencontrer. J'ai dit, j'ai pas pensé à cet aspect. Donc finalement, j'ai arrêté d'aller vers les sociétés minières. Parce que quand tu veux parler de préservation, une société minière avec ses activités qui impactent forcément sur le couvert végétal et tout, même quand ils font des actions de reboisement et tout, quand ils auront à faire des dégradations, tu ne peux pas dénoncer parce que quelque part, ils te soutiennent. Donc je pense qu'il y a cet aspect aussi. C'est vrai qu'on est dans le besoin, mais il faut savoir quel appui prendre.
Vous parliez de dénoncer. Alors on va se tourner vers Madeleine Nguega, journaliste d'investigation. Vous avez travaillé sur des sujets très complexes concernant l'environnement. Comment dénoncer justement? Ou comment traiter ces questions?
Merci pour la question, Ghislain. C'est la grande question, c'est comment dénoncer. Quand on voit l'urgence de toutes ces problématiques, la complexité des environnements dans lesquels on se trouve, on se demande toujours comment dénoncer. L'une des choses à prendre en compte, c'est d'abord, je dirais d'abord, la question de la sécurité. Il faudrait que les journalistes soient conscients que traiter des questions environnementales aujourd'hui, c'est un gros, gros, gros problème. Il y a un gros problème de sécurité qui pourrait se poser pour les journalistes parce que c'est un sujet qui met en exergue plusieurs intérêts. Il y a plusieurs personnes qui sont dont les intérêts seront menacés si les journalistes commencent à dénoncer ce qui ne va pas dans l'environnement. Parce que quand on a une question d'érosion côtière dont a parlé par exemple Idiatou ou bien dont a parlé Anderson, l'érosion côtière, les populations qui se retrouvent avec leur village aujourd'hui détruit, c'est il y a quelqu'un qui est responsable de cette situation. Si on commence à analyser les causes, si on commence à fouiller pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, on pourra se rendre compte qu'il y a peut-être une décision gouvernementale qui avait été prise pour mener une action dans une localité qui n'a pas marché ou qui n'a pas, dont le suivi n'a pas été bien réalisé, ou alors peut-être des populations qui sont allées s'installer quelque part et dans une zone qui est interdite. Donc c'est une somme d'événements, une somme d'actions qui entraîne toutes les conséquences désastreuses qu'on a aujourd'hui. Et celui qui va investiguer, qui va enquêter sur ces sujets, il doit savoir que c'est les intérêts des gens qui met en jeu. C'est pourquoi je parle de la sécurité. Donc maintenant, avec la question de la sécurité, on va pas dire il ne faut plus du tout enquêter. C'est de se dire je suis conscient que je m'aventure sur un terrain glissant. Je peux être menacé, je peux être intimidé. Maintenant, c'est comment je peux me préparer. La première chose que je dirais, c'est avant de mener quel que soit le sujet, c'est peut-être une habitude qu'on n'a pas encore beaucoup. En Afrique, dans nos différents pays, c'est de faire une évaluation des risques. Vraiment, c'est une habitude qu'on n'a pas encore vraiment développée. On n'est pas formé sur la question, mais c'est important. Peu importe la façon dont on fait cette évaluation des risques, qu'on n'ait pas assez de compétences pour le faire ou pas, mais qu'on sache qu'il faut faire une évaluation des risques. C'est vraiment quelque chose d'assez simple. On n'a pas besoin.
Comment elle se fait concrètement?
Voilà. C'est assez simple. C'est de se poser des questions basiques. Quelle est la zone où je m'en vais? Quel est le sujet sur lequel je veux travailler? Ce sujet sur lequel je veux travailler, je vais le réaliser dans quelle localité? Avoir une idée des éléments contextuels de la localité. Quelle est la population de la localité? Quelles sont les caractéristiques politiques de la zone, les caractéristiques même sur le plan du comportement des populations? Quand je vais y aller, est-ce que les gens sont réceptifs? Est-ce que les communautés parlent facilement? Est-ce que c'est des thématiques dont on peut me parler de façon ouverte? Est-ce qu'il y a des risques de sécurité? Est-ce que il est possible que je me fasse attaquer, menacer, agresser pendant que je serai en train d'interviewer? Toutes ces questions-là, se les poser en amont et essayer de trouver des réponses pour avoir déjà un aperçu clair de ce dans quoi je veux m'aventurer. Avec cet aperçu clair de ce dans quoi je veux m'aventurer, ça nous permet de voir comment est-ce que je me prépare en cas de danger. Avoir un plan de sécurité, se dire, ok, si j'arrive dans la zone et qu'on doit m'intimider ou alors il y a quelqu'un, je dois être victime d'agression, quelle est la première chose que je dois faire? Quelle est la première réaction que je dois avoir? Est-ce que je dois aller vers un chef de quartier? Est-ce que j'ai identifié le chef de quartier qui s'y trouve? Est-ce que je dois appeler quelqu'un au téléphone? Si je commence une interview et ça tourne mal, comment je fais? Avoir toutes ces questions-là en amont nous permet d'anticiper sur les risques de sécurité auxquels on peut faire face dans l'entretien, dans l'investigation. L'autre élément à prendre en compte, c'est même après qu'on ait collecté nos informations, parce que là, on était à l'étape de la collecte, mais après la collecte de l'information, après la publication même de nos reportages, nos enquêtes, il y a encore la question de la sécurité. Mais là, on évalue en amont en se disant, les personnes que je vais interviewer, est-ce que je les mets en danger? Une femme qui va dire, avant mon village se trouvait au milieu de l'océan et aujourd'hui l'eau a tout envahi. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en danger cette maman qui va faire le témoignage de façon naïve en se disant, il n'y a aucun risque de sécurité? Pensez à comment est-ce qu'on protège les personnes qui nous ont donné ces informations sur leur quotidien, comment elles sont impactées aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment l'aspect sécuritaire qui est un élément primordial. Maintenant, si on doit parler de façon peut-être plus simple de comment investiguer, comment enquêter, comment travailler sur ces questions, la première chose, c'est de connaître le contexte. Là, Idiatou, Anderson ont présenté le contexte de nos différents pays. C'est l'un des préalables. Connaître le contexte, les enjeux, les problématiques sur lesquelles on travaille. Avoir aussi cette petite notion de base des questions environnementales, les comprendre simplement, parce que si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à les comprendre, il sera difficile pour nous de l'expliquer au public. Et à côté de cela, aller vers la collaboration. On va pas détailler tous les éléments d'une investigation ou d'une enquête en une émission, mais je dirais que l'une des choses essentielles, ce serait de collaborer avec des universitaires, des experts, des chercheurs, des responsables administratifs ou des responsables communautaires qui ont une information, une donnée à nous passer pour mieux faire notre travail.
La question de la collaboration, c'est vraiment une question clé également dans ce travail-là, en tant que journaliste environnemental. En quoi est-ce que cela est très important de créer ce lien étroit entre les médias et les scientifiques? Anderson Diédry.
Oui, cela est important puisque on sait que c'est le changement climatique ou, si vous voulez, de manière large, les questions environnementales sont souvent des sujets complexes et techniques. Cela a besoin qu'on puisse les expliquer de manière plus simple. Et donc, on peut voir, si on prend l'exemple du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui donc font des études et aussi font des propositions par rapport à comment le climat évolue, change, et comment on peut donc réduire nos émissions, s'adapter. Vous allez voir que le rapport du GIEC, c'est pas tout le monde qui peut le lire et le comprendre. Pourtant, c'est là que se prennent, si vous voulez, sur cette base-là qu'on doit prendre des décisions. Que ce soit les chefs d'État, les chefs de gouvernement, c'est sur la base de ces études, des travaux de ces scientifiques-là qui se projettent dans le temps qu'on doit prendre des décisions. Donc, il faut les rendre plus simples. Et aussi, puisque ce sont des documents qui proposent aussi des actions à l'endroit du grand public, comment nous tous, on peut contribuer à l'action climatique, à l'effort de réduction des gaz à effet de serre. Et donc, cela est important de créer cette collaboration entre les scientifiques et les chercheurs pour discuter, hein. Leur dire effectivement que vous avez un jargon, le sujet il est technique, complexe, sec, mais après vous devez être en mesure aussi de simplifier par exemple, mais aussi les faire comprendre par les médias d'abord et qui eux à leur tour en tant que professionnels des médias peuvent aussi trouver les moyens de simplifier, de mieux expliquer pour que le grand public puisse mieux comprendre ces thématiques qui sont complexes. Donc c'est possible. C'est faisable et donc ça, c'est, on va dire, c'est une sorte de collaboration gagnant-gagnant. Les scientifiques et les chercheurs trouvent auprès des médias l'écho qu'ils souhaitent avoir pour leurs travaux, par exemple, pour que ça incite, que ce soit les décideurs ou les populations à s'engager en faveur de l'action climatique, mais aussi pour les journalistes, on a des sources d'informations qui peuvent nous expliquer ces phénomènes complexes là plus simplement et en maintenant avec les techniques journalistiques, comment les rendre accessibles au public. Donc finalement, les chercheurs trouvent l'écho, leur rapport, leur production trouve écho auprès du public, des décideurs. Et nous, en tant que médias, on a des sources d'informations qui sont disponibles pour pouvoir nous aider à produire des contenus à l'endroit du public, qui est bien entendu notre rôle de tous les jours. Donc voilà ce que le séminaire aussi a essayé de créer. Et bien entendu, ça va se poursuivre. Hein. L'idée, c'est de voir avec les pays bénéficiaires, par exemple, du projet Terra Africa, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Cap-Vert, Guinée-Bissau, comment ces chercheurs qu'on a pu réunir ici, qui travaillent sur des thématiques différentes, par exemple, vont rester en contact avec les médias, les accompagner tout le long du projet pour pouvoir faciliter les interviews, les entretiens, des enquêtes, des visites de terrain. Aussi, donc, c'était ça un peu l'intérêt de cette collaboration, de cette synergie qui a essayé, dont les bases ont été jetées à l'occasion de ce séminaire.
Est-ce que vous pensez que les médias sont suffisamment associés justement dans les politiques de stratégie en ce qui concerne l'environnement de façon générale?
L'implication reste plus ou moins, n'est pas suffisante, ça il faut le dire clairement. Si vous prenez un exemple concret, c'est que dans les contributions déterminées au niveau national de la Côte d'Ivoire, par exemple, puisqu'on a soumis une contribution, les contributions prévues déterminées en 2015 avant d'aller à la COP, de Paris, COP21, et donc ces contributions ont été révisées en mars 2022, donc cette année. Et les CDN, les contributions déterminées au niveau national, c'est dans ce document stratégique que les pays décident de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est le document stratégique du pays pour l'action climatique. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est notre contribution pour réduire les émissions au niveau global? Et dans ce document, on parle juste pour la Côte d'Ivoire de stratégie de communication, élaborer une stratégie de communication. Voilà. Donc le mot communication sort quand on parle de stratégie de communication. Mais à part ça, on ne voit nulle part médias. Donc ça montre que pour l'instant, l'implication des médias reste faible. Et il faut pouvoir considérer les médias comme une partie prenante entière. Quand on élabore les documents, les médias doivent être présents pour donner leur point de vue, parce qu'il ne sert à rien de rédiger les documents, d'élaborer les documents, de mettre en œuvre les actions et à la fin venir restituer, faire la restitution aux médias pour qu'à la fin ils puissent les véhiculer à l'endroit du public. Non, il faut qu'ils soient là au moment de l'élaboration de ces documents, de la définition des politiques, pour que l'axe information, sensibilisation, éducation soit central. Parce que à la fin, qu'est-ce qui va créer les changements? C'est lorsqu'une masse critique de population sera sensibilisée sur les enjeux environnementaux et donc va pouvoir, quand on est mieux sensibilisé, c'est là qu'on s'engage. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'engagement des citoyens, d'une masse critique de citoyens qui s'engagent pour dire on ne veut plus, par exemple, polluer, donc même jeter les ordures ici. Par exemple, faire une agriculture qui est responsable, qui protège le climat. Qui va pas donc finir détruire toutes les forêts du pays, par exemple. Donc ça, il faut qu'on l'explique aux populations, que ce soit en zone urbaine, que ce soit en zone rurale. Les gens doivent bien le comprendre. Mais qui peut faire ce rôle? C'est les médias principalement, parce qu'ils ont la possibilité de toucher un plus grand public à partir de leurs locaux. Même si le gouvernement va faire des actions, le secteur privé, la société civile, mais c'est des actions ponctuelles de sensibilisation. Les médias, c'est permanent, parce que leur rôle, c'est d'informer le public, d'éduquer le public. Donc, il faut renforcer l'implication des médias dans la lutte contre les changements climatiques et cela commence par les considérer comme une partie prenante à part entière.
Cette collaboration avec tous ces pays-là, qu'est-ce que vous avez pu retenir, Idiatou Camara?
En venant ici, je savais déjà que seul on peut pas y arriver et donc ce module fait partie des modules qui m'ont particulièrement intéressé. Je l'ai même mis dans la fiche d'évaluation, la collaboration, parce qu'on s'est rendu compte que nous avons les mêmes réalités, les mêmes contextes, pour ne pas revenir dessus. Donc on gagnerait mieux à pouvoir travailler ensemble sur les mêmes sujets pour avoir une plus grande population à s'en sensibiliser. Et également, dans le cadre de l'accès aux sources d'information, on s'est rendu compte que c'est difficile dans tous nos pays. Mais dans le cadre de la collaboration, par exemple, si moi je vais travailler sur des données sur la Côte d'Ivoire par rapport à l'érosion côtière, je sais qu'avec le ministère de l'Environnement d'ici, peut-être ça ne va pas être évident. Qui vous êtes? Qui vous a donné mon contact? Attendez, je vais me référer tout ça. Donc s'il y a déjà des données disponibles avec des confrères, des données fiables, bien entendu, ça nous permettrait de gagner en temps pour pouvoir faire ce travail Et ensuite, on pourrait avoir une vision globale de ce qui se passe chez les autres. Et comme on dit, on s'enrichit quand on regarde ce qui se passe autour de nous. Je pense que la collaboration est très importante et pertinente parce que c'est ensemble que les solutions peuvent être trouvées.
Le dernier tour de table, rapidement, Anderson, en termes de mots-clés, par exemple, qu'il faudrait retenir en tant que journaliste, engagé pour la sauvegarde de notre environnement, c'est quoi selon vous?
Moi je dirais que c'est effectivement la question du changement climatique et si vous voulez de manière large l'environnement, c'est une thématique importante aujourd'hui comme je le disais. Aujourd'hui on parle de urgence climatique. Urgence, c'est-à-dire que c'est devenu très important, on doit tous s'investir, s'engager, c'est vrai de traiter, c'est bon de traiter les questions politiques, c'est d'ailleurs pratiquement chaque jour la une de nos médias. C'est vrai aussi de parler de sport, de société, de plein de choses. Mais aujourd'hui, c'est important que les journalistes se disent qu'ils ont besoin de travailler aussi dans les pays, là où ils sont. Et donc, la question environnementale va aussi impacter leur travail. D'où la nécessité d'accorder plus d'intérêt à cette thématique dans leurs médias, en tout cas dans nos médias. Et puis, il faut se spécialiser parce que là, il faut que les responsables de médias aussi puissent se dire qu'on veut dédier des journalistes pour pouvoir s'intéresser à ces thématiques, consacrer des rubriques entières, faire des émissions par exemple. Mais il faut que les journalistes puissent se former à comprendre ces notions, c'est quoi le changement climatique, c'est quoi quand on parle d'adaptation au changement climatique, d'atténuation, de vulnérabilité, tout ça. Il faut comprendre ces notions de manière claire pour pouvoir mieux les aborder dans les médias. Et aussi, la question, parce que ça revient régulièrement aujourd'hui, et ça c'est connu de tous, les médias vivent une situation terrible aujourd'hui avec l'impact du numérique. C'est beaucoup de... Le modèle économique des médias est devenu difficile. Alors que parler du changement climatique peut aussi être un moyen aussi, parce que c'est une thématique qui touche tout le monde. En milieu rural, les populations, la déforestation, toutes ces questions d'érosion côtière, c'est le vécu du quotidien, les inondations, la sécheresse, c'est le vécu des populations au quotidien. Et donc en parler, ça peut aussi intéresser les gens, d'où l'intérêt à se dire, ça peut être aussi un moyen d'accroître les audiences. Et là où on parle d'audience en matière de médias, ça peut être aussi un moyen de gagner des revenus pour pouvoir aussi faire fonctionner nos médias. Et donc, il faut vraiment que les médias s'intéressent à la thématique. Et on l'a vu lors de ces séminaires, il y a de nouveaux moyens pour faire la narration sur aussi les changements climatiques, qu'on appelle le journalisme de solution. C'est bon de poser les problèmes, de parler de décès quand il y a les inondations, les populations qui sont déplacées à cause de l'érosion côtière et tout ça. Mais aussi, il faut voir qu'est-ce qui marche, soit à côté de nous, quelles sont les initiatives aussi qui marchent dans nos pays. Des femmes, par exemple, qui s'adaptent, qui produisent différemment parce qu'elles ont vu, elles ont compris l'impact qu'elles vivent sur le changement à cause du changement climatique. Donc ça, le journalisme de solution peut mettre en avant ces initiatives pour que ça crée plus d'impact. On peut aussi voir ailleurs, dans d'autres pays, comment ça se passe. Vous dites, oui, il y a tel problème, mais après, il faut mettre en avant les solutions. Et c'est en cela que le journaliste aussi va contribuer à proposer des solutions, à motiver des gens. Donc c'est ça, donner la parole aussi pour mettre en avant ces histoires intéressantes qui montrent qu'il y a des initiatives qui se font, que ce soit au niveau du gouvernement. Hein. Chez nous, par exemple, on parle de reboisement, un jour 1 million d'arbres, un jour 5 millions d'arbres, un jour 10 millions d'arbres. C'est bon d'engager ce vaste programme de reforestation. Il faut aller voir. Est-ce qu'en Guinée, au Cameroun, en Afrique centrale, ailleurs, comment ça se passe, pourquoi ça marche, pourquoi aussi, quelles sont les faiblesses pour aussi les mettre en avant pour que ça marche. Donc, vraiment, on a un rôle important à jouer et le projet Terra Africa, j'imagine, et c'est le cas, contribue également au renforcement des capacités, à la mise en relation des journalistes pour pouvoir se partager, collaborer, se partager les idées, les initiatives. Il y aura des formations, il y aura aussi un accompagnement à la production et on espère que ce projet va contribuer au bout de 2 ans à jouer, en tout cas à contribuer à renforcer la place des médias dans la lutte contre les changements climatiques en Afrique de l'Ouest. Merci.
Merci Anderson. Il y a tout Camara de Radio Environnement Guinée. Oui, mot-clé.
Pour moi, c'est même pas lié au journalisme environnemental. Je parlerai d'engagement, de passion et de positivité. Pour moi, ces 3 mots sont importants pour pouvoir faire du journalisme environnemental dans le contexte africain. Parce que si on est là pour dire déjà ah, ça sert plus à rien, tout est fini, il y a les catastrophes, il y a la sécheresse, il y a la déforestation, mais qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut être optimiste, c'est d'ailleurs ma nature optimiste, hein, même quand parfois ça ne va pas, mais je suis de nature optimiste, donc je pense que les journalistes que nous sommes doivent être optimistes et s'engager, mais avoir la passion, parce que quand on a la passion d'un métier, sûrement je ne vous apprends rien, vous arrivez à soulever des montagnes, entre guillemets, mais quand vous n'avez pas la passion, ça vous limite. Donc je pense que les journalistes africains doivent s'engager davantage, accorder plus d'importance au sujet de développement. C'est vrai qu'on parle d'environnement, mais il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'entrepreneuriat. On ne fait pas beaucoup sur ces sujets. Je pense que nous devons être engagés à parler de développement dans nos pays et surtout à nous engager et encore à nous engager. Et merci de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à toutes celles et ceux qui vont vous écouter. Et j'espère qu'on pourra développer une collaboration, un partenariat entre nous parce que, encore une fois, quelqu'un le disait, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin.
Merci beaucoup Diatou Camara. Je rappelle que vous êtes la responsable du Radio Environnement Guinée. Et on termine avec Madeleine Nguega, journaliste d'investigation. Madeleine, vos mots-clés par exemple pour terminer.
Merci pour cette opportunité. Je dirais en termes de mots-clés, passer à l'action. Je pense que on a fait le constat, on a constaté qu'il y a beaucoup d'enjeux. On a déroulé le constat selon lequel les journalistes pensaient avant que les questions environnementales étaient déconnectées de leur univers, déconnectées de leur environnement. Mais aujourd'hui, on réalise que les questions environnementales sont interconnectées aux questions sociales, aux questions de gouvernance, aux questions politiques, aux questions économiques. Je dirais tout simplement, il est temps de passer à l'action, faire quelque chose, écrire des articles, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a des petits articles ou des grands articles. Le fait juste d'en parler autour de nous, dans nos articles, dans nos émissions, on n'a pas besoin forcément de se dire on attend la conférence des partis sur le changement climatique ou bien la journée mondiale de l'environnement pour faire quelque chose. Le fait de faire ces sujets-là au quotidien et de montrer le lien entre les questions sociales et les questions environnementales, ce serait essentiel pour pouvoir renverser la tendance.
Merci beaucoup Madeleine, merci infiniment à vous. Vous nous avez permis de creuser davantage sur ce sujet, les défis environnementaux et le rôle des médias. Merci.
On a vu nos parents lutter pour améliorer notre quotidien. Le progrès s'est consommé, on a même lancé des fusées pour toujours plus loin. Inconscient du prix à payer, car juste sous nos pieds, une terre abîmée. Aujourd'hui les temps ont changé, car même l'eau va manquer, même l'eau va manquer. Il faut nous rassembler, il faut s'entraider, chacun doit changer, chacun peut changer. Se libérer, nous réinventer. Car même l'eau va manquer, même l'eau va manquer. Un seul besoin, une seule envie, préserver la vie et le genre humain. Les rivières ne font plus de bruit, il y a du poison dans la pluie qui arrive au loin. Toutes nos forces réunies de tous les pays se donnent la main. Avoir raison de cette folie du monde aujourd'hui qui ne mène à rien. Il faut nous rassembler, il faut s'entraider. Il faut s'entraider, chacun doit changer.
C'était sujet de discussion.